33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. RFI est d'ailleurs l'un des partenaires de l'UNESCO qui organise cette journée. En tout cas, malgré l'émergence des réseaux sociaux, eh bien la radio reste un média incontournable pour vous informer, vous relier au reste du monde, vous exprimer. Alors dites-nous ce matin, quel impact ce média a-t-il dans votre vie quotidienne? Quel rôle la radio joue-t-elle dans votre pays, radio communautaire, nationale ou internationale? Qu'attendez-vous de la radio? Vous nous appelez, vous nous rejoignez, vos témoignages nous intéressent. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission et vos témoignages sont nombreux hein, ce matin sur la page Facebook de l'émission. J'ai par exemple la réaction de Tolno qui nous dit « Ici en Sierra Leone, oui, la radio a joué un rôle important dans la mobilisation contre le virus Ebola grâce aux radios communautaires qui nous donnaient des informations pour vaincre cette épidémie. Par ailleurs, nous dit Tolno, la radio a joué un rôle primordial dans la réconciliation post-conflit après plus de 10 ans de guerre civile. » Et comme je vois que Tolno nous a indiqué son numéro de téléphone, eh bien nous le rappellerons, on a envie de l'entendre évidemment ce matin, comme vous tous qui êtes en ce moment à l'écoute d'RFI à travers le monde, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité des questions. Tiens, sur l'Allemagne, qui, vous le savez, a accueilli en 2015 plus d'un million de migrants. Le sujet domine la vie politique sur place. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako.
Tout à fait Juan.
Au Mali, on vous écoute.
Oui Juan, la chancelière allemande Angela Merkel a présenté un plan de mesures d'expulsion des migrants dont l'asile a été refusé. L'Allemagne, qui a en effet a accueilli plus d'un million de migrants depuis 2015, veut à présent accélérer les expulsions des demandeurs d'asile déboutés. Juan, je voudrais savoir combien de migrants sont concernés par ces mesures, comment l'Allemagne va procéder à leur expulsion et que peuvent faire certaines régions qui sont défavorables à ces mesures pour suspendre cette décision d'Angela Merkel.
Ouais, c'est vrai que certaines régions s'opposent aux expulsions, notamment vers l'Afghanistan. Ils étaient d'ailleurs plusieurs milliers à manifester samedi à travers le pays. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Blaise.
Vous êtes le correspondant d'RFI à Berlin. Je le disais à l'instant, les expulsions sont plus que jamais au cœur du débat politique en Allemagne. En fait, tous les demandeurs d'asile qui n'obtiendront pas l'autorisation de rester sur le territoire seront reconduits à la frontière. Ça représente combien de migrants? Est-ce qu'on a une idée, une estimation?
Alors, à la fin 2016, il y avait environ 200 000 personnes qui étaient concernées par une telle possible reconduite à la frontière, car il faut quand même souligner que tous ceux qui sont si susceptibles d'être reconduits à la frontière ou rapatriés dans leur pays ne le sont pas, parfois pour des raisons pratiques. Une étude de McKinsey parlait même d'un demi-million de personnes au cours de l'année qui commence. Il faut souligner qu'il y a 60% des demandes d'asile qui obtiennent une réponse positive. Il suffit de faire un calcul sur plus d'un million entre 2015 et 2016 pour calculer combien seraient concernés. Sur les raisons, il faut évidemment souligner le fait que c'est ce qu'affirmait aussi Angela Merkel, on veut pouvoir prendre en charge de façon plus efficace l'intégration de ceux qui sont autorisés à rester. On veut aussi appliquer le droit. Et puis aussi, on est en année électorale, donc on craint les populistes de droite qui peuvent exploiter ces non-expulsions.
Concrètement, les mesures prévues par Angela Merkel et son gouvernement pour reconduire tous ces migrants à la frontière, le plan prévoit, j'ai vu par exemple, de nouvelles incitations financières pour encourager les migrants à rentrer dans leur pays.
Effectivement, donc c'est un peu une politique de la carotte et du bâton. La carotte, c'est ce que vous évoquiez, avec une augmentation, plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires. Il y a déjà des incitations qui existent, mais elles seront donc plus importantes à l'avenir pour que les personnes concernées rentrent d'elles-mêmes, sans expulsion, sans violence, sans contrainte, dans leur pays. Mais il y a aussi des mesures plus répressives, avec le fait que les délinquants, ceux qui ont des fausses identités, seront punis et devront rentrer plus rapidement dans leur pays. Il y a aussi la volonté, mais qui se heurte à la résistance de certaines régions, de créer des centres d'expulsion qui seraient gérés au niveau national par l'État fédéral, ce qui se heurte à la résistance d'un certain nombre de régions qui voient toujours d'un mauvais œil dans un pays fédéral, en quelque sorte, le fait qu'on rogne leurs compétences.
Oui, et certaines régions sont même vent debout face aux expulsions vers l'Afghanistan, qui est un pays où la situation se dégrade.
Effectivement, il y a plusieurs régions allemandes qui ont décidé de mettre un embargo en quelque sorte sur les expulsions vers l'Afghanistan, que, encore une fois, ces expulsions, chaque région gère de façon souveraine. Et donc, si une région décide de ne pas expulser les ressortissants de tel ou tel pays, eh bien, ces personnes restent dans la ville, Berlin par exemple, la ville-État, ou bien dans la région dans laquelle ils vivent. Donc, on a une sorte de mosaïque aussi en Allemagne, fédéralisme oblige, du dispositif ou de l'état d'esprit qui règne, disons, entre les différents gouvernements régionaux sur ces questions.
Oui, 5 Länder sur 16 ont décidé de suspendre les expulsions vers l'Afghanistan. On a répondu à vos questions, Blaise.
Oui, je suis plus que satisfait, Juan.
Eh bien, on vous souhaite une belle journée à Bamako, belle journée de la radio. C'est la radio mondiale aujourd'hui, journée mondiale de la radio plutôt. On met les mots dans le bon sens. Où que vous soyez, appelez-nous, témoignez. Dites-nous ce matin quel est le rôle de la radio dans votre pays. D'ailleurs, vous pourrez suivre le débat dans 25 minutes maintenant en direct sur Facebook. Et oui, on s'adapte nous aussi aux nouvelles technologies. Nous vous proposons un Facebook Live Audio à écouter sur la page RFI. RFI appelle sur l'actualité. Pascal Thimot, bonne journée à Berlin. Olivier Roger du service Afrique des RFI est déjà à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur la Somalie, dossier que vous suivez au sein du service Afrique des RFI. Bertrand, vous êtes à Stuttgart. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Oui, en effet Juan, la semaine dernière donc, nous avons appris sur les antennes de RFI l'élection du nouveau président somalien Mohamed Farmajo. Et donc j'ai aussi entendu dire qu'il a eu une carrière internationale et d'ailleurs l'article de RFI le présente comme un technocrate. Donc sur ce, j'aimerais savoir quel est donc son parcours international. Donc quel est son parcours en général?
Ouais, ben, beau parcours effectivement. C'est vrai qu'il a une belle carrière, Olivier Roger. Alors son vrai nom, c'est Mohamed Abdoulaye Mohamed. Il est surnommé Farmaggio. Alors pour ceux qui parlent l'italien, auront compris, ça signifie fromage tout simplement.
On aurait pu l'appeler l'américain d'ailleurs.
C'est vrai. Alors fromage, pourquoi en italien? Parce que la Somalie est une ancienne colonie italienne. C'est vrai que son parcours est intéressant. Bertrand parle de carrière internationale. J'ai plutôt envie de parler effectivement de carrière américaine.
Ouais. Il est né à Mogadiscio pourtant en 1962, il a donc environ 55 ans, et la politique a toujours fait partie de son histoire en fait et de son horizon familial, puisque ses parents étaient tous les deux des activistes dans le premier parti politique somalien, c'était dans les années 70. Au milieu des années 80, il entre dans la diplomatie et va d'ailleurs être en poste comme premier secrétaire à l'ambassade somalienne des États-Unis, et puis il reprend des études supérieures à l'université de Buffalo, c'est dans l'état de New York, et c'est d'ailleurs là, dans la ville de Buffalo, qu'il va travailler pendant quelques années et d'une façon générale jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre en 2010. Il travaille pour divers organismes dans l'État de New York et pour la ville de Buffalo. Il est citoyen américain et en 2009, il termine une thèse de master en sciences politiques à cette université de Buffalo, toujours. Une thèse qui porte sur les relations américano-somaliennes durant la guerre froide et jusqu'à la guerre contre le terrorisme. C'est donc un homme rompu aux relations internationales, mais sur un côté, on va dire, universitaire. Il est aussi rompu à la gouvernance locale, on va dire, puisqu'il a travaillé pour la municipalité de Buffalo, et il est nommé en 2010 au poste de Premier ministre. C'est là qu'il acquiert sa popularité.
Oui, parce que tout le monde s'accorde sur un point. Il est très populaire, notamment auprès des jeunes, des fonctionnaires, mais aussi des militaires.
Oui, cette popularité tient à trois choses. D'abord, il est resté Premier ministre 7 mois à peine, ce qui généralement n'est pas suffisant pour devenir impopulaire. Mais durant ces 7 mois, il a pris certaines mesures très intelligentes et aussi très, très populaires. Là encore, il a réduit par exemple le nombre de portefeuilles ministériels. Il a payé les soldes des militaires et ces derniers s'en souviennent. Et il a payé aussi les fonctionnaires. Il a introduit un gel des voyages à l'étranger pour les hauts fonctionnaires et les ministres. Et les jeunes Somaliens urbains apprécie particulièrement son côté moderne, son ouverture au monde, son côté américain, on va dire, pour faire rapide. De plus, Farmajo tient un discours qu'à l'époque, beaucoup de Somaliens voulaient entendre, un discours nationaliste centré sur l'unité du pays. Vous savez que la Somalie, depuis l'éclatement de la guerre civile en 91, est déchirée par des tendances séparatistes, Puntland, Somaliland, etc. Et les Somaliens veulent retrouver un État uni. Farmarjo a tenu ce discours unitaire. Il n'est pas le seul dans le pays, mais lui, tout le monde s'accorde à dire qu'il est particulièrement bon orateur.
La Somalie qui est plongée donc dans la guerre civile depuis maintenant 26 ans. Vous avez une autre question, Bertrand ?
Oui, Juan. Et déjà, merci pour la première. Donc, dans un second temps, on a remarqué que quand on présente cet événement, cette élection-là, c'est toujours accompagné d'une liste des défis actuels du pays. Et donc, j'aimerais savoir quels sont les soutiens dont bénéficie le nouveau président sur le plan national et international dans le cadre de pour pouvoir faire face justement à ces défis-là.
C'est vrai que les défis sont nombreux, sont très importants. C'est un chantier qui attend le président Farmadjo. Ce qui est sûr, c'est que son élection, Olivier Roger, suscite de l'espoir en Somalie. Il a des soutiens déjà au niveau national ?
Alors au niveau national, il a le soutien du clan auquel il appartient, le clan Darod. Vous savez que cet équilibre clanique est quelque chose de très important. C'est une donnée de la vie politique somalienne. Et depuis deux mandats présidentiels, le fauteuil présidentiel était occupé par un Hawiyé. C'était le cas de Sheikh Sharif Sheikh Ahmed et celui du président sortant, Sheikh Hassan Mohamoud, le prédécesseur de Farmadjo. Les députés ont estimé qu'il était temps de changer de clan, en fait, à la tête du pays, tout en maintenant, bien évidemment, un équilibre entre les grands clans. Alors, il a le soutien de son clan, sans doute pas à 100%, mais c'est une donnée quand même très importante. Il se dit aussi qu'il aurait reçu le soutien de pays étrangers comme le Qatar, à travers notamment des liens supposés avec Farhad Yassine, qui est un homme d'affaires qui représente, on va dire, sur le plan régional, les intérêts du Qatar. C'est pas tout à fait avéré, mais si c'est vrai, il n'est pas certain que ce soit décisif, parce que, à titre d'exemple, la Turquie, qui mène une offensive économique et diplomatique en Somalie depuis quelques années, soutenait le président sortant, et ça ne lui a pas porté particulièrement chance. Donc les liens extérieurs ne pèsent pas forcément très lourd, mais ils sont importants dans le sens que le nouveau président a un réseau, il possède un réseau d'amitié à la fois aux États-Unis, sans doute parmi les monarchies du Golfe, et c'est pour lui un atout.
Et il faut quand même parler de ses faiblesses.
Oui, il faut parler de ses faiblesses parce que il n'aura pas tous les leviers du pouvoir entre les mains, ça c'est certain. Le pouvoir est réparti entre le Parlement, le président et le Premier ministre que le président ne choisit pas puisque ce sont les députés qui le nomment, et il ne sera pas aux ordres de Farmarjo. Donc il va falloir négocier un programme politique, négocier les intérêts. Rappelons que les alliances au sein de cette assemblée, cooptée plutôt qu'élus, sont assez fluctuantes et assez flexibles. L'autre difficulté pour lui sera l'épreuve du feu. Farmarjo, on l'a dit, tient un discours nationaliste, centralisateur. Or, ces dernières années, les provinces somaliennes se sont émancipées. Elles ont acquis un poids très important dans les affaires politiques et il n'est pas certain qu'elles seront prêtes à voir de nouveau Mogadiscio remettre en cause ce pouvoir, on va dire, décentralisé, si ce n'est fédératif. On saura très vite si Farmarjo a su adapter son discours à la nouvelle donne politique qui a changé depuis 2010. Enfin, bien évidemment, il reste tous les défis dont on évoquait l'existence, les problèmes de corruption, la violence, avec toujours la pérennisation des Chebabs et la corruption, qui est un problème important en Somalie.
Allez, Bertrand ?
Oui.
On a répondu à toutes vos questions ?
Oui, je suis actuellement satisfait et merci.
Merci surtout à Olivier Roger et merci d'écouter RFI à Stuttgart en Allemagne. Il est 9h24 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Simon Rosé du service Science nous rejoint à l'instant. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
Des questions pour vous, rien que pour vous ce matin. Aruna, vous êtes à Ouagadougou, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Nous vous écoutons, Aruna.
Oui, Juan, nous avons appris que des chercheurs chinois ont découvert un fossile rare âgé de plus de 540 millions d'années, qui, selon eux, serait le plus vieux ancêtre préhistorique de l'homme. Je voudrais comprendre comment et où ce fossile a-t-il été découvert et à quoi peut-il ressembler.
Ah, à quoi peut-il ressembler ? Très honnêtement, j'ai vu une photo.
C'est pas très beau.
C'est pas très beau. On a l'impression que ce fossile sort tout droit d'un film de science-fiction, voire même d'un film d'horreur. Simon Rosé, soyons sérieux. Le plus vieil ancêtre de l'homme a donc été découvert. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs chercheurs, des Chinois, des Britanniques, des Allemands.
Voilà, donc c'est une équipe de chercheurs archéologues en Chine qui ont découvert ce fossile au centre de la Chine, dans la province du Shaanxi. Bon, comment ils l'ont découvert ? C'est très simplement un site de fouille avec leur petit marteau, leur petite balayette baguette pour. Il fallait pas passer à côté, hein, parce qu'il est petit, il fait un millimètre à peu près de longueur, donc il faut avoir l'œil pour le repérer. Mais c'est ce qu'ils ont fait, et ça fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue américaine Nature au début du mois.
Effectivement, il est minuscule, ça ressemble surtout à un petit grain de couleur noire à l'œil nu. Concrètement, il ressemble à quoi une fois qu'on le regarde au microscope ?
Eh bien, comme on disait, c'est pas très beau. C'est une grande bouche. On dirait un petit sac avec une grande bouche. 8 cônes au-dessus qui entourent cette bouche, justement, et la particularité, c'est qu'il n'a pas d'anus. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on est...
Ça fait sourire Olivier Roger, fait sourire évidemment.
Sur un millimètre de distance.
Mais à chaque fois que j'en parle dans la rédaction, ça fait rire. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est il y a moins 540 millions d'années, on est dans une période qu'on appelle le Cambrien. Dans l'évolution de la vie, c'est une période qui est très importante, puisqu'on appelle ça l'explosion du Cambrien. Il y a plein d'espèces qui apparaissent de partout, plein de fossiles différents. Et celui-ci, Sacoritus, fait partie d'un groupe, ce qu'on appelle les deutérostomiens. Les deutérostomiens, ce sont nos ancêtres. En fait, ce sont les premiers animaux sur Terre qui ont développé un système digestif complet. Qui veut dire bouche, système digestif, anus. Lui n'en a pas, mais il a ses 8 cônes autour de la tête qui font office en fait d'ébauche d'anus. Et c'est pour ça que, pour répondre à Aruna, qu'on considère que c'est le plus vieil ancêtre connu de l'homme, parce que c'est le premier justement à présenter ses caractéristiques. Alors après, il faut faire attention. Hein. Si l'homme est un deutérostomien comme Sacoritus, tous les deutérostomiens ne sont pas des hommes. Parce que Sacoritus, après, il va évoluer, ses descendants, on peut trouver la limace de mer, l'étoile de mer. En fait, tous les vertébrés sont des deutérostomiens, même si tous les vertébrés ne sont pas des hommes.
Donc ça veut dire, si je comprends bien, Simon Rosé, ça signifie quoi? Que l'ancêtre dont nous parlons a évolué en devenant quoi? Un poisson?
Par exemple, a donné les poissons, tout ce qui est ichtyens, il a donné les étoiles de mer, j'en parlais, les primates, la racine. On prend toujours cette image pour évoquer l'évolution, celle de l'arbre. Et ben là, c'est une branche dont sont parties d'autres branches, etc. Et c'est pour ça que on partage tous ce trait commun d'avoir un système digestif, mais après on a évolué différemment. Mais il se trouve que le point commun à la base, c'est Sacoritus, il y a moins 540 millions d'années.
Donc pas d'anus. Information importante, les chercheurs n'ont rien trouvé qui pouvait ressembler à des yeux.
Non, c'est vrai, c'est une caractéristique qui apparaît plus tard dans l'histoire de l'évolution.
Ouais.
Simplement.
Oui,
juste pour ajouter, c'est le plus vieil ancêtre pour l'instant connu de l'homme, mais le plus vieil ancêtre ultime, celui dont on l'appelle Lucas, c'est le last unknown common ancestor, le dernier ancêtre commun à tout en fait ce qui vit sur Terre. On l'appelle Lucas, et lui, il est beaucoup beaucoup plus ancien, puisqu'on l'estime à moins 3,7, moins 3,8 milliards d'années. C'est l'apparition de la vie sur Terre, et c'est de cet ancêtre-là qu'on ne connaît pas qui a dérivé toute la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais que ce soit les plantes, les animaux, tout, en fait, dérive de cet ancêtre commun.
Aruna, vous avez une dernière question?
Oui, la dernière question. Comment ce chercheur peut-il affirmer que c'est le plus vieil ancêtre de l'homme?
Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure.
Déjà, c'est une annonce qui fait pas l'unanimité dans la communauté. C'est le plus vieux deutérostomien connu pour l'instant, moins 540 millions d'années. Ça reste encore, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire que c'est le plus vieil ancêtre connu de l'homme pour l'instant. En tout cas, c'est un des plus anciens, ça c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, on a déjà trouvé des fossiles qui ont plus de milliards d'années, qui font pas partie de la même branche que l'homme, mais le plus vieil ancêtre commun possible auquel on pourra remonter, c'est ce Lucas dont je parlais, et lui, c'est pas loin des 4 milliards d'années en arrière. Donc on en est encore loin.
Merci beaucoup, Simon Rosé. Il a un nom tout de même, notre ancêtre?
Sacoritus.
Sacoritus, très bien. Merci d'être
J'en profite, on parle d'évolution, c'était l'anniversaire de Darwin ce week-end, donc voilà.
Vous faites bien de le noter et de le signaler. Merci Simon Rosé, journaliste au service sciences d'RFI. Aruna, on vous souhaite une bonne journée à Ouagadougou. 33 9 693 693 70. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, évidemment, vous nous appelez. On a besoin de connaître vos questions en amont avant de commencer l'émission pour contacter au sein de la rédaction nos experts, contacter également nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Dans un instant, le point complet sur l'actualité, et on sera de retour dans 10 minutes pour parler radio. Et oui, c'est la journée mondiale de la radio. Quel rôle la radio joue-t-elle dans votre pays? On vous attend au standard. À tout de suite.
Du 21 au 30 juillet 2017,